Merci pour ta présence ici encore. Oui, aide-nous, Seigneur, à toujours mieux te glorifier dans notre vie, à te refléter toujours mieux et être des adorateurs que tu recherches. Aide-nous, Seigneur, nous comptons et je compte sur le ministère du Saint-Esprit, afin que tout ce qui sera dit et fait soit inspiré par toi. Que nos oreilles aussi, les oreilles de chaque personne ici, soient ointes du Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire pour notre bien, pour notre édification, notre croissance, et pour que ton nom soit élevé dans notre vie. À toi seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous connaissez ce passage, Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne pouvons donc pas l'adorer comme nous le voulons, mais comme il le veut, lui. Il est donc important de toujours renouveler cet esprit d'adoration, avoir comment garder un cœur d'adorateur. C'est un peu le titre du message ce soir. Comment garder ce cœur d'adorateur? C'est là quelque chose de très important, pas seulement le dimanche matin quand on vient à l'église, mais à toutes les réunions de l'église, comme nous le voyons ici, nous sommes très contents qu'il y ait cet esprit d'adoration, mais pas seulement à toutes les réunions de l'église, mais aussi dans votre maison. Aussi qu'il y ait cet esprit d'adoration. Et ces maisons ne seront plus des maisons, ce seront des temples où la gloire du Seigneur habite. Car là où il y a l'adoration, il y a la gloire de Dieu. Et quand il y a la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, le temple de Dieu qui est là. Mais cette gloire de Dieu ne descend pas comme cela, n'est-ce pas vrai? Je lisais encore, on ne va pas lire tout ça ce soir, mais je notais, c'était dans Exode 40, on n'a pas besoin de le lire maintenant, mais juste pour vous montrer qu'à un moment donné, on voit comment l'Éternel a dit à Moïse qu'il devait construire le tabernacle, et chaque fois il est dit « Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Et il fit ainsi. Et j'ai compté du verset 16 au verset 33, 34, 33, 8 fois il est mentionné, il fit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Dans la construction du temple, du tabernacle, tout dans les détails. Et c'est seulement après, au verset 34, qu'il est dit, « Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Mais c'est seulement après. La gloire n'est pas venue comme ça avant que Moïse ait fait comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et quand vous lisez ces passages-là, c'est bien de les lire. Parfois un peu, c'est ennuyeux. Il y a des détails. Il devait faire ceci, il devait faire cela. Dans les habits, la construction, tout était minutieusement préparé. Et Moïse devait tout faire comme Dieu le lui avait ordonné. Voyez-vous, nous voyons par là que nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme nous le voulons. Il y a un plan préparé. Il y a un plan que Dieu a déjà donné. Nous ne pouvons rien inventer. Nous n'avons rien à inventer. Dieu nous a déjà tout donné et nous devons faire d'après ce modèle-là. Et si nous faisons comme il est écrit, alors la gloire descendit sur le tabernacle. D'abord, l'obéissance et ensuite la bénédiction. Nous, bien souvent, nous voulons la bénédiction, mais sans l'obéissance. Ça ne marche pas avec Dieu. Le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de l'obéissance. L'obéissance est le mot clé dans la vie d'un chrétien. Si on peut résumer toute la vie d'un chrétien, c'est l'obéissance. Et quand un chrétien est obéissant, alors, la présence de Dieu l'accompagne. Il est vraiment comme un temple. Notre corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Et dans un temple, on ne fait pas comme on veut, n'est-ce pas vrai? Je ne peux pas faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que d'autres veulent. Nous devons faire ce que Dieu veut. Et il nous faut être strict là-dessus. Et il fit tout comme l'Éternel le lui avait ordonné, et il fit ainsi. Voilà les hommes et les femmes que Dieu recherche, soucieux d'être fidèles à ce que Dieu a dit. Voyez-vous, ce ne sont pas des grandes capacités que Dieu attend de nous. C'est notre disponibilité à lui obéir, à lui être fidèle. C'est ce que Dieu attend, cette fidélité, cette obéissance. Et s'il arrive à trouver un chrétien ou une chrétienne comme cela, Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de cette personne. Comment garder un cœur d'adorateur? Premièrement, en nous approchant du Seigneur, de Dieu, au travers du sang de Jésus. Ça, c'est la première vérité importante, n'est-ce pas vrai? Hébreux 10, 19. Ainsi donc, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. Il nous faut toujours réaliser que nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu trois fois saint comme cela. C'est au travers du sacrifice sanglant de Jésus que nous pouvons nous approcher du Dieu trois fois saint. Dieu s'approche de nous uniquement à cause du sacrifice de son Fils. Nous ne devons jamais l'oublier. Et ne pas penser que si Dieu s'approche, c'est à cause de nous. Non, c'est à cause de son Fils, de ses souffrances, de son sacrifice. Et il y a où, là où il y a l'aspersion du sang, l'Esprit de Dieu peut descendre. La gloire de Dieu peut se manifester. Mais là où il n'y a pas l'aspersion du sang de Christ, la gloire de Dieu est bannie. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre. Comment garder un cœur d'adorateur en réalisant que nous pouvons nous approcher de Dieu, du Dieu trois fois saint, qu'au travers du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a payé notre dette. Il a pris sur lui notre condamnation, notre jugement. Et il nous a libérés. Et il nous dit maintenant, tu es libre. Purifié par mon sang, tu peux entrer dans la présence du Dieu trois fois saint. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi il est important dans les moments d'adoration de beaucoup mettre l'accent sur la croix de Jésus. Et c'est une grande faiblesse. Dans beaucoup de chants d'adoration, la croix n'y est plus. Ou très peu. Et voilà pourquoi la présence de Dieu est proportionnelle à notre foi dans la croix de Jésus, dans l'efficacité de cette croix. Moins nous parlons de la croix, moins nous chantons la croix, moins nous verrons la gloire de Dieu descendre. Quand il y a eu le réveil au Pays de Galles, ce réveil extraordinaire, il y avait quelque chose de tout particulier là-bas. Ils chantaient beaucoup sur le message de la croix, la prédication de la croix. La croix était centrale dans leur adoration. Et voilà pourquoi la gloire de Dieu descendait au milieu d'eux. Mes amis, prenons garde à ne pas mettre la croix de côté. Mais au contraire, à toujours la planter au centre de notre cœur et au cœur même de la vie de l'Église. Afin de réaliser qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme cela. Il y a toujours une préparation. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours une préparation. Avez-vous remarqué une chose dans le tabernacle? Dans le lieu saint, quand on entre dans la présence de Dieu, il y a le très saint derrière. Mais déjà, quand on entre dans le lieu très saint, avez-vous remarqué une chose? On ne se lave pas dans le lieu saint. Il n'y a rien pour se laver. C'est avant d'entrer dans le lieu saint qu'on doit se laver. Et juste avant l'entrée du lieu saint, il y avait la cuve des reins. Et là, les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. Mais une fois dans le sanctuaire, il n'est plus question de se laver, c'est avant qu'il faut le faire. Il y a une leçon magnifique. Ce n'est pas dans le sanctuaire qu'on se lave. Et combien de chrétiens, pendant qu'on loue le Seigneur, sont en train de se laver les mains et les pieds? Ils sont en train de se laver les mains et les pieds. Oh Seigneur, pardonne. Oh Seigneur. C'est avant que ça doit se faire tout ça. Parce que quand on commence à adorer, ce n'est plus le moment de se laver les pieds. Il y a un temps pour cela, d'accord, mais ce n'est pas dans le sanctuaire. Ce n'est pas dans le lieu saint. C'est avant. Ceci pour nous dire qu'il y a une préparation, voyez-vous. Quand on entre dans le sanctuaire et qu'on ne s'est pas lavé, ça veut dire qu'on est entré comme ça un peu. Hein? Voilà, je fais un peu comme je veux. Non, 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 le sacrificateur, s'il entrait dans le lieu saint sans s'être lavé les mains, il risquait sa vie. Voyez-vous, On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce que Dieu veut. Quand on est prêt, quand on veut vraiment adorer le Seigneur, il faut d'abord avoir préparé son cœur. Amen. Si tous les chrétiens venaient ici avec le cœur préparé, les mains lavées, les pieds lavés, spirituellement parlant, alors la gloire de Dieu serait 10 fois plus grande au milieu de nous. Comment garder un cœur d'adorateur? En nous purifiant par le sang de l'agneau avant d'entrer dans le sanctuaire. Amen. Comment garder cette relation d'amour, ce cœur d'adorateur, en réalisant que l'adoration est avant tout une relation d'amour. L'adoration est une relation d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Adorer le Seigneur, c'est l'aimer de tout son être. Et c'est une relation où on ne pense plus à soi. Ce n'est plus « Seigneur, je t'aime, mais il faut que tu m'aimes aussi. » Dans l'amour, on ne pense plus à soi, on pense qu'à l'être qu'on aime. Et c'est là la vraie relation d'amour. Ce n'est pas « Je t'aime, Seigneur, si tu m'aimes, si tu me bénis. Je t'aime, Seigneur, si tu viens m'aider. » Il n'y a plus rien de tout ça. Dans une véritable relation d'amour, vos bobos, vos petits problèmes, tout ça, ça disparaît complètement. Dieu prend toute la place. Dans la véritable adoration, l'homme est complètement mis de côté. Et Dieu seul prend toute la place. Quand vous lisez l'Apocalypse, il est bon de lire parfois l'Apocalypse avec ses moments de louange, d'adoration. Est-ce que vous voyez là-bas quelqu'un dans un petit coin qui dit « Oh Seigneur, bénis-moi » Est-ce que vous voyez ça dans une prière? Et pourtant, on est là. Vous êtes là. À un moment donné, Apocalypse 4 et 5, ce sont les chrétiens déjà qui sont montés au ciel. Vous êtes là en train de chanter. Vous ne reconnaissez pas votre voix. Vous êtes là, dans cette foule. Et il n'y en a pas un qui dit, « Oh Seigneur, bénis-moi. » Le ciel est le ciel parce que le Seigneur prend toute la place. Digne est l'agneau qui a été sacrifié. Et la multitude acclame l'agneau. Il remplit les cœurs. Il remplit le ciel. Il remplit chaque personne qui est là. Un jour, j'avais lu cela dans un des livres de Thoret, qui est connu, où il donne la définition de l'adoration. Et avant cela, je n'avais pas compris. Et beaucoup de chrétiens encore n'ont pas bien saisi cela. Il disait... Dans la prière, nous sommes préoccupés par nos besoins. C'est bien de prier, mais la prière n'est pas l'adoration. Ça nous conduit vers l'adoration, mais ce n'est pas encore l'adoration. Parce que dans la prière, « Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis l'Église. » C'est bien, c'est biblique, mais ce n'est pas encore adoré, ça. Pourquoi? Parce que vous êtes... préoccupé par vos besoins. Il va plus loin en disant, l'action de grâce, ce n'est pas encore adorer, rendre grâce à Dieu. C'est bien de rendre grâce. Seigneur, merci maintenant, je t'ai prié, et maintenant je te remercie, tu m'as béni, tu as guéri, tu as fait du bien, tu m'as aidé. Mais dans l'action de grâce, cette fois, on est préoccupé par ses bénédictions. Mais c'est toujours vous. mes besoins, mes bénédictions. Mais ce n'est pas ça, adorer. Ça nous prépare pour l'adoration, mais ce n'est pas encore l'adoration. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Mais dans l'adoration, vous ne pensez plus ni à vos besoins, ni à vos bénédictions. Vous ne pensez qu'à Dieu seul. Lui seul, vous l'aimez pour lui-même et non pas pour ses bénédictions. Vous l'aimez pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Pour lui-même. C'est ça la relation d'amour. Je t'aime, Seigneur, parce que je t'aime tout simplement. Que tu me bénisses ou pas, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Je t'aime. Un point, c'est tout. Et je t'aimerai. C'est toi qui comptes avant tout, par-dessus tout. Et quand on a cette vision-là, plus personne ne peut nous arrêter. Puisque vous n'êtes pas arrêté par vos besoins, par vos bénédictions, puisque toutes ces choses sont peut-être là, mais ça ne vous arrête pas, vous êtes là, préoccupé par le Seigneur et le Seigneur lui seul. C'est cela la relation d'amour, quand il prend toute la place. Et que vous, vous êtes complètement mis de côté. Amen. C'est cela, la vraie adoration. Ce n'est pas « Seigneur, je t'adore, bénis-moi ». Et bien souvent, on entend, ça nous fait du bien. On vient pour se faire du bien. Là, on ne vient pas pour se faire du bien. On vient d'abord pour le Seigneur. Lui, il saura nous faire du bien, bien sûr. Mais on ne vient pas pour se faire du bien. Ça veut dire quoi quand on vient pour se faire du bien? Ça veut dire que le moi est encore là. Le je est là, moi. L'homme est là. On utilise Dieu pour nous bénir. On utilise même l'adoration pour nous bénir. Attention, on n'utilise jamais l'adoration pour que Dieu nous bénisse. L'adoration est là pour que nous bénissions Dieu. Et lui seul. Sans rien pour l'homme. C'est merveilleux. Parce qu'en faisant cela, enfin, vous mettez votre moi de côté. Vous qui avez des problèmes avec votre moi, toujours vous pensez à vous. C'est l'occasion idéale pour enfin ne plus penser à votre moi, mais pour penser au roi des rois. Alléluia! Que de chrétiens! Dès qu'ils ouvrent la bouche, oh, bénis-moi, c'est toi. Le moi est là. L'adoration vient couper ça à la racine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'adoration fait cela, mes amis. La vraie adoration. Prenons deux enfants. Dans une famille, ça arrive, un enfant vient vers son papa ou sa maman et lui dit « Je t'aime ». Et vous savez que cet enfant vient, exprime son amour parce que vraiment, il vous aime, vous. Il a un amour pour vous. Alors, il exprime son amour et tout ça. Un autre vient, il exprime son amour, mais... Tout de suite après, il dit, mais c'est pour demander quelque chose. Maman, papa, t'es formidable, gentil. Mais il y a une petite idée derrière la tête. Et alors après, ça vient. J'ai besoin de... Ça y est. Et le papa ou la maman, tout de suite, discerne que cet enfant, quand il vient, c'est toujours un peu calculé. Ah, je t'aime. L'enfant ne comprend pas quand ça. Il n'arrive pas à voir, c'est sa sottise. Mais un autre enfant arrive, il ne demande rien pour lui, c'est sincère. Papa, maman, je t'aime. Qui est-ce qui réjouit le plus le cœur de ses parents, de ses deux enfants? L'un dit, tous les deux disent je t'aime. Mais quel est celui qui réjouit le plus le cœur de son père ou de sa maman? Vous avez compris? C'est celui qui aime ses parents pour eux-mêmes. Le papa et la maman pour eux-mêmes. Non pas pour venir « je t'aime », pour utiliser, toucher la fibre de l'amour pour recevoir quelque chose. Comment est-ce que vous vous approchez du Seigneur? Nous sommes ses enfants. Est-ce que nous venons pour lui exprimer sincèrement notre amour? Ou alors est-ce que derrière notre amour, là, « Seigneur, je t'aime, mais j'ai quelque chose à te demander, à te dire, et même certains, même à reprocher. » Il y a des spéciaux aussi. Hein. Parce qu'ils en savent plus que le Seigneur, ceux-là. Une relation d'amour met vraiment l'homme de côté. Enfin, on est libre de son moi. Enfin, on pense qu'au Seigneur. Voilà pourquoi le ciel sera le ciel. Parce que le Seigneur sera le centre de tout. Il remplira notre être tout entier. Et nous vivrons pleinement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia! Quelle plénitude! Ne cherchez pas à être béni, cherchez à bénir le Seigneur. Et vous verrez qu'il ne vous oubliera jamais. Jamais. Mais ce n'est pas là votre priorité, être béni. Le bénir, lui, ça doit être votre priorité. Parce que nous avons été créés pour adorer Dieu, n'est-ce pas vrai? Tout notre être, nous avons été créés pour le glorifier, l'exalter. Que son nom soit béni. Adorer, troisièmement, ce n'est pas recevoir, c'est donner. Dans la vraie adoration, on ne cherche pas à recevoir. On donne, on se donne et on s'abandonne. Voilà la vraie adoration. Adorer n'est jamais recevoir. On ne vient pas là pour quémander, n'est-ce pas vrai? On vient là pour donner notre amour, nous donner au Seigneur et nous abandonner. S'il est si merveilleux que ça, comme nous le disons, est-ce qu'on ne peut pas se donner à lui? Est-ce qu'on ne peut pas s'abandonner à lui? Si on dit que le Seigneur est si merveilleux et qu'on garde sa vie pour soi-même, n'est-ce pas de l'hypocrisie? Dire qu'il est extraordinaire, dire qu'il est merveilleux, qu'il est fidèle, qu'il est puissant, qu'il est compatissant, et garder sa vie pour soi-même, douter encore de lui, n'est-ce pas de l'hypocrisie? Une vraie adoration, ce n'est pas recevoir, c'est donner, se donner. Quand on connaît le Seigneur, on ne peut faire qu'une chose, nous donner. Et nous abandonner. Celui qui connaît vraiment le Seigneur ne peut que s'abandonner entre ses mains. Et quand nous le verrons face à face, nous n'aurons qu'un regret, mes amis, de ne pas nous être donnés encore plus que ça. Au contraire, nous allons nous sentir honteux devant un si grand amour de sa part, manifesté si peu d'amour de notre part, et en plus un amour égoïste. Calculateur. Je t'aime si tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, je te laisse tomber. Et on les laisse tomber. Et voilà. Et puis après, on recommence 10 ans après. Adorer, ce n'est pas recevoir, c'est donner. Donner, il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Celui qui adore, un vrai adorateur, quatrième vérité, on en est au numéro combien, 4? Un vrai adorateur sera toujours un bon serviteur. Un bon serviteur. Car nous ne pouvons pas, mes amis, Passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur en ne pensant qu'à lui et rester les mêmes, ce n'est pas possible. Dans cette présence merveilleuse où nous nous donnons à lui, lui se donne à nous. Et vous l'avez remarqué, à combien après nos cœurs sont pleins de joie. Nous n'avons même pas demandé la joie. Seigneur, donne-moi la joie, donne-moi la joie, donne-moi la joie. C'est comme ça que ça marche, vous croyez? Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix. C'est pas comme ça que ça marche. La paix, la joie n'est pas quelque chose, c'est une personne. La force n'est pas quelque chose, c'est une personne. Et plus nous sommes remplis du Seigneur, dans l'adoration, ça déborde. Ça déborde. Vous rappelez-vous de Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre? À un moment donné, il a renié. Et dans Jean, et il dit, il a remis les pendules à l'heure un peu dans la vie de l'apôtre Pierre. Et il lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et qu'est-ce qu'il a dit après? Paix mes brebis. Voyez-vous? Pour que Pierre puisse bien paître les brebis du Seigneur, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse d'abord? C'est comme si le Seigneur voulait lui dire, si tu veux être un bon pasteur, si tu veux être un bon serviteur, il faut que tu m'aimes plus, que tu m'adores plus. Si mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors tu pourras paître mes brebis. Voyez-vous, quelqu'un qui est vraiment un adorateur, qui passe du temps avec le Seigneur, cette personne sera, j'allais dire, automatiquement remplie des grâces du Seigneur, de l'esprit du Seigneur, de la compassion du Seigneur, de la sagesse du Seigneur, de la paix du Seigneur, de la joie du Seigneur. Étant tellement rempli, nous n'avons ensuite qu'un désir, c'est de déborder sur les autres. N'est-ce pas vrai? En somme, le service chrétien, c'est un débordement de notre amour pour le Seigneur. Quand on déborde d'amour pour le Seigneur, alors c'est ça le service chrétien. C'est un débordement d'amour, de notre amour pour le Seigneur. C'est merveilleux. Bien souvent, notre service pour le Seigneur ne provient pas de ce débordement d'amour. Au contraire, c'est sec, c'est dur. Nous n'avons pas assez passé de temps avec le Seigneur. Et on a l'impression que on n'apporte rien parce qu'on n'a pas reçu du Seigneur avant. On n'a pas été d'abord avec le Seigneur. Et c'est là une vérité importante. Si nous voulons bien servir le Seigneur, alors il nous faut bien l'adorer. Amen. Et le ministère de l'adoration, c'est le plus grand des ministères. Et c'est le premier des ministères. C'est la cinquième pensée. Écoutez-moi bien. Le ministère de l'adoration est plus grand que le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, pasteur, évangéliste. C'est le plus grand des ministères, celui de l'adorateur, ou si vous voulez, de sacrificateur. Pourquoi? Parce que le ministère d'apôtre, prophète et les autres ministères, évangélistes, pasteurs, docteurs, est pour les hommes. Ils sont là pour les hommes. Tandis que le ministère de sacrificateur, d'adorateur, est pour Dieu. Et le ministère pour Dieu est plus grand que tous les ministères pour les hommes. Alors, aucun chrétien n'a le droit de se culpabiliser ou de se rendre inférieur et dire « Moi, je n'ai rien du tout ». Ce n'est pas vrai. Dieu t'a donné, et a donné à tous les chrétiens le plus grand des ministères, celui de l'adorer lui, de le servir lui.
Il n'y a rien de tel pour nous déculpabiliser, nous décomplexer. Si tu as compris cela, plus jamais tu ne diras « je n'ai pas de ministère ». Jamais tu le diras. Pourquoi ? Parce que quand tu as compris que ton ministère est d'abord pour Dieu et que tu le fais fidèlement de tout ton cœur, pour lui et non pas pour toi, il se passe quelque chose à ce moment-là. Dieu te remplit, Dieu te visite. Et si tu es rempli, tu vas être rempli jusqu'à déborder. Et sans t'en rendre compte, tu vas commencer à exercer un ministère qui est comme un débordement de ton amour pour le Seigneur. Et c'est ça le véritable ministère. Celui qui vient du ciel, qui passe au travers de toi et qui touche les autres. Il vient du cœur de Dieu. Il touche ton cœur. Et si ton cœur a été touché, tu pourras toucher le cœur des autres. Ce ministère-là n'est pas seulement pour la chorale. Certains peuvent penser, ah, c'est pour la chorale, ou les jeunes qui chantent, ou un quelqu'un qui a un ministère. Non, 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 c'est pour tous les chrétiens. Et c'est bien souvent ce ministère-là qui déclenche les autres ministères. Parce que quand Dieu voit que tu es fidèle dans ce ministère, qui est le plus important, et que tu es fidèle, il te donnera un autre ministère pour bénir les autres. Parce que si tu es un vrai adorateur, tu as quelque chose. Tu as vécu avec le Seigneur. Tu as vu la main du Seigneur. Tu es resté près de lui. Tu as quelque chose. Le sceau de Dieu est sur toi. Et ce sont ces personnes-là que Dieu utilise. Celles qui ont le sceau de Dieu sur eux. Amen. Je vais arrêter là pour ce soir. Si déjà on met en pratique ces vérités capitales, nous ne pouvons pas être les mêmes personnes, mes amis. Mais il faut que notre adoration soit une véritable relation d'amour. Et cette relation d'amour nous transformera complètement. Et je pense maintenant, juste avant de venir, je lisais dans un commentaire à la maison, justement sur l'adoration. C'était un Indien, je crois, Cherokee d'ici, là, au Canada même. J'avais lu ça dans un livre. Et il a donné la vraie définition de l'adoration. Et il a dit, parce que le Seigneur m'aime, et parce que je l'aime, je veux lui obéir et faire toujours ce qui lui plaît. J'ai trouvé ces pensées tellement belles, simples mais profondes. Parce qu'il m'aime, et parce que je l'aime, je veux lui obéir et faire toujours ce qui lui plaît. Il n'a pas fait peut-être d'école de théologie, cet Indien-là, mais il a découvert ce que beaucoup de théologiens n'ont pas encore découvert, n'est-ce pas vrai? Car la vraie adoration nous conduit toujours à l'obéissance, n'est-ce pas? On ne reste pas là comme ça, vivant uniquement pour nous-mêmes. La vraie adoration nous conduit à l'obéissance, à dire « Me voici, Seigneur. Que veux-tu que je fasse ?» Comme dans Isaïe, chapitre 6, « Qui enverrai-je ? » Après cette grande révélation du prophète Isaïe, « Qui enverrai-je ? » Quand on a été dans la présence de Dieu, Dieu nous dit maintenant, « Je peux t'utiliser pour t'envoyer et faire au travers de ta vie une œuvre profonde. » Puisque mon œuvre a été profonde dans ta vie, alors je pourrais t'utiliser pour que tu fasses une œuvre profonde dans la vie des autres. La vraie adoration finit par la consécration de sa vie et l'obéissance au Maître pour faire sa volonté comme il veut, quand il veut, où il veut. Le petit Indien, il avait compris quelque chose. Parce que tu m'aimes, et parce que je t'aime, je veux t'obéir et faire toujours ce qui te plaît. Puissions-nous avoir la même pensée que cet Indien et être ainsi des adorateurs qui glorifient le Seigneur et qui seront utilisés par le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Tu nous as dit que tu cherchais des adorateurs, de vrais adorateurs, qui t'adorent en esprit et en vérité. Non pas superficiellement ou par intérêt, ou avec des cœurs partagés, mais de tout leur cœur. Tu en cherches parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des vrais. Seigneur, puissions-nous être parmi ceux-là ce soir et que nous puissions ainsi réjouir ton cœur, glorifier ton nom et obéir à ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous voici, Seigneur, non ma volonté, mais que ta volonté seule soit faite, dès maintenant et à jamais. Amen. Restons dans le recueillement encore quelques instants. Et la gloire au siècle des siècles.
Que le ciel entier est rempli d'un esprit d'adoration. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Autour du trône de Dieu, il n'y a que de l'adoration. Et ce ministère le plus glorieux, est confié à chacun d'entre nous. C'est ce que nous ferons pendant l'éternité. Alors, je crois qu'il est temps de l'apprendre déjà sur la terre et d'entrer dans cette dimension qu'est l'adoration dont vous parlera mon mari. Mais moi, je suis là pour vous dire que quand nous sommes dans la présence de Dieu, comme nous le sommes maintenant, dans l'adoration, dans un esprit d'adoration, Dieu descend au milieu de nous. Le Seigneur descend au milieu de nous et il peut se passer les choses les plus étonnantes qui soient. Le Seigneur seul est capable de faire un miracle comme celui que je vais vous raconter. Et c'est certainement un des plus beaux miracles que nous venons de vivre à Paris l'année dernière et quelques mois auparavant. C'est extraordinaire ce que nous avons vu le Seigneur faire quand nous passons du temps avec lui, comme nous venons de le faire. Dans l'adoration devant lui. Nous étions rassemblés dans une grande salle et d'un seul coup, une personne entre dans cette salle pendant que nous adorions le Seigneur. Une personne en ruine. Une loque humaine est entrée dans cette salle. Vous savez comment on voit les SDF dehors, mais pire que ça. Elle était une femme courbée, comme une bête traquée, comme ça. Complètement ruinée, démolie, le diable était en train de la détruire complètement. Et je reprends ses paroles à elle. Elle dit, mon être entier avait été détérioré par l'adversaire. Ma vie n'était que confusion, ténèbres et terreur. Elle était issue d'une famille qui avait pratiqué l'occultisme. Et, la famille l'avait destinée à devenir sorcière. Depuis des générations, cette famille était dans l'occultisme. Et elle dit, j'étais gravement atteinte de mutisme. Elle ne pouvait pas parler. Une femme rejetée par la société. Voyez le tableau. Errante, médicalement incurable, seule et vivant dans une immense frayeur. Elle vivait déjà une sorte d'enfer sur la terre, cette femme. J'étais une sorte de loque humaine. Tout en moi était cassé. Et tout ce que j'entreprenais se disloquait au fur et à mesure. Cette femme ne pouvait plus travailler depuis 8 ans. Une femme dont tout le monde se moquait. Et elle me disait au téléphone, j'ai eu des longs téléphones avec cette femme, une fois qu'elle a été rétablie. Elle me disait, quand je marchais dans la rue, on me fuyait. On changeait de trottoir. Elle faisait peur. Une ruine humaine, terrible, déconnectée d'avec la société. Alors cette femme est entrée dans notre salle où nous étions réunis, où nous adorions le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a vu cette femme arriver. Et une parole de connaissance est arrivée. Et a dit, cette parole de connaissance a dit qu'il y a une femme complètement détruite, je ne sais plus les mots qui ont été utilisés. Exactement son image. Et au moment où cette parole a été donnée, Jésus a touché cette femme. On a chanté, il m'a touché. Alors là, c'était vraiment un attouchement céleste, puissant. Divin, extraordinaire, et cette femme est sortie de son état. Au moment même où cette parole de connaissance fut donnée, elle dit, le Seigneur, dans sa grâce, m'a touchée et complètement restaurée. À partir de cette merveilleuse réunion, le Seigneur a commencé à tout réparer en moi. Et elle m'en a parlé pendant 1 heure au moins au téléphone de tout ce que le Seigneur avait réparé en elle. Incroyable. À n'en plus finir. À tout réparer, à restaurer mon être tout entier. Il m'a tellement transformée, régénérée, aussi sur le plan mental, sur le plan intellectuel, que même ses voisins et tous ceux qui la voyaient passer dans la rue sont ébahis. Ils ne reconnaissent plus cette femme. Le Seigneur a littéralement reconstruit ma vie et j'ai pu reprendre des activités. Une formation informatique, s'il vous plaît, et un poste de secrétariat. À partir de cette réunion, elle dit elle-même, j'ai mis toute ma confiance en celui qui m'a tant béni. Oh, je voudrais qu'elle puisse soit là pour rendre elle-même ce témoignage parce que c'est extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour dire quelque chose là-dessus. Et je jouis, elle dit, d'une communion particulière et journalière avec son Seigneur. Elle n'était pas convertie. Hein. Elle s'est convertie aussi, évidemment. Il m'a rendu mes repères et me permet maintenant de vivre une existence de qualité. J'ai aussi appris à développer librement un esprit de louange et d'adoration pour Dieu qui a ainsi transformé toute mon existence. Ça a été la première étape. Mais écoutez, c'est pas fini encore. Ça a été la première. Parce que le Seigneur s'y prend parfois par étapes, parce qu'il y a tellement à faire que ce serait trop de faire tout d'un coup. Ou alors il veut se glorifier en 2 fois aussi, on ne sait pas. Ça, c'est les plans du Seigneur. Mais de toute façon, c'est gigantesque, c'est majestueux, c'est merveilleux. Alors après, voilà, ça c'était au mois de novembre, 2000, et au mois de mai 2001, avril 2001, on refaisait une convention chrétienne, et on était encore dans l'adoration, la louange. Le peuple de Dieu était là, comme nous, ce soir, à adorer le Seigneur. Le Seigneur était au milieu de nous. Cette femme est revenue, et elle avait encore un problème physique qui lui était resté. Et cette fois-ci, elle avait des séquelles physiques de toute cette dégradation qu'elle avait subie. Et durant la réunion de louange et d'adoration, toujours là-bas, une nouvelle parole de connaissance est donnée. Et cette fois, le Seigneur la touche une deuxième fois, puissamment, et régénère les cellules qui étaient encore détériorées dans son cerveau. Régénérer ses muscles, régénérer son système nerveux et régénérer son sang. Mais ça a été une reconstruction totale d'un être humain. Il faut bien le Seigneur. Et voyez ce qui peut se passer dans une réunion de louange et d'adoration. Elle disait qu'elle était toujours affaiblie encore, donc c'était son état d'avant, sans résistance, sans force, au point physiquement zéro. Elle avait des problèmes parfois parce qu'elle était vite épuisée. Mais au moment où cette parole a été donnée, son cerveau s'est remis à fonctionner normalement. Ses capacités intellectuelles redynamisées encore davantage. Elle dit que c'était comme si des vannes s'étaient ouvertes en moi et mon corps tout entier a repris toute sa forme. Cette fois, c'est le corps. C'est merveilleux. Hein? C'est absolument une histoire phénoménale à la gloire de notre Dieu. Et elle dit, je veux dorénavant vivre pour celui qui m'a tant aimé et qui m'a sorti de cet état fœtal dans lequel je me trouvais. Je veux le servir, elle dit, et témoigner partout de ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Seigneur, nous savons que quand ton peuple t'adore, tu descends au milieu de nous. Et tu fais des choses étonnantes. Mais là, tu as fait vraiment une chose étonnante et glorieuse, et nous voulons te rendre gloire pour cette merveilleuse transformation. Louange à toi, agneau de Dieu. Nous voulons nous laisser instruire par toi, Seigneur, à savoir comment adorer ton nom, comment élever cet agneau de Dieu qui est assis sur le trône et que le ciel entier adore. Nous voulons apprendre comment faire. Enseigne-nous tes voies ce soir. Merci Seigneur, parce que tu es au milieu de nous et tu veux aussi te glorifier ici. Que ton nom soit loué. Nous voulons ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit et être à l'écoute de ta parole et de l'enseignement que tu vas nous donner. Amen.
Gloire, gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence si bienfaisante au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous et pour cette jeune dame là-bas à Paris. Seigneur, merci. C'est ta compassion divine qui l'a visitée. Nous ne pouvons que nous courber à tes pieds et te dire merci. Et à ton nom seul soit toute la gloire.